L'idée, beaucoup d'entre vous, je pense, qui suivent ce cycle, la connaissent, c'est de faire présenter, non pas un film, mais plus exactement un auteur, sur lequel nous verrons un film tout à l'heure, par un lecteur. Ce soir, j'ai donc le très grand plaisir d'accueillir Pascal Dussapin, compositeur. Pascal Dussapin, alors on ne présente pas Flaubert, Pascal Dussapin, on va peut-être rappeler qu'il a été l'élève de Xenakis, qu'il a été pensionnaire de la Villa Médicis dans les années 81-83, que c'est un des compositeurs français, je pense, les plus joués dans le monde. Je renvoie, parce qu'il a été, il a occupé pendant un an la chaire de création artistique au Collège de France en 2007. Je renvoie donc à ce livre qui vient de paraître, à la librairie du 21e siècle, une musique en train de se faire, et qui reprend notamment, hein, je crois, Pascal, la leçon inaugurale, et puis avec d'autres textes. Alors Flaubert, pourquoi est-ce que, avec Catherine Blangonnet, quand on avait fait une liste des films ou des auteurs dont on souhaitait montrer, sur lesquels on souhaitait montrer des films, pourquoi Pascal Dussapin? Parce que c'était d'abord ce souvenir, on en parlait tout à l'heure, ce souvenir d'une soirée milieu des années 90, je pense que c'était en 94, où je me suis retrouvée dans l'atelier que tu occupais à l'époque, rue Impasse Godelet, avec Olivier Cadio et Jean Echenoz, et tu nous as montré un manuscrit de Flaubert, et on était totalement subjugués. Qu'est-ce qu'il est devenu? En plus, c'était sur une étagère, enfin bon, c'était pas dans un coffre-fort, tout à coup, parmi des livres, comme sur vraiment une petite étagère, tu nous sors ça.
Ça fait de l'effet, hein?
Ah, oui, ça fait de l'effet.
Alors, tout d'abord, bonsoir. Et alors, l'histoire de ce manuscrit est effectivement une histoire assez étonnante, puisque je l'ai acquis en 93 par l'intermédiaire d'une libraire dans le cadre d'une des ventes pour les bibliophiles qui seraient présents. Une des plus célèbres ventes du XXe siècle était la vente du colonel Cyclès, qui était un très grand bibliophile. Et j'avais pu acquérir ce manuscrit à la faveur de ce que les commissaires priseurs ou les spécialistes des ventes appellent élégamment un trou. C'est-à-dire que cela avait été vendu entre deux énormes manuscrits de Flaubert, notamment des notes afférentes, je crois, tant que je m'en souvienne, des voyages de Flaubert en Orient, et par les champs et par les grèves. Et il y avait ce manuscrit extraordinairement bien relié de 22 ou 23 pages qui étaient des notes afférentes à l'histoire de France. Et c'est comme ça qu'en fait, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est comme ça que le manuscrit n'était pas si cher, quoi. Voilà. Parce que quand vous vendez quelque chose, 1 200 000, je parle en France, en France, le lapsus est joli, puis après quelque chose du même ordre, bah, y a toujours un petit objet qui fait figure un peu rikiki au milieu, et c'est tombé sur moi. C'est comme ça que j'ai pu l'acheter. Et il faut savoir, encore une fois pour ceux que ça intéresserait, que moi je suis bibliophile depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent. Et j'ai le grand plaisir d'avoir la totalité, par exemple, des éditions originales de Flaubert, dont des versions assez rares, comme les pré-originales de Bouvard ou même de Madame Bovary. Et j'ai par exemple aussi l'éloge funèbre de la ville de Rouen un an pour fêter l'anniversaire de la mort de Flaubert, quand on sait les injures qu'a proféré Gustave sur les édiles rouennais, avoir un texte édité à 50 exemplaires, un compte d'auteur dit par le maire de la dite province, je peux vous assurer que c'est ce qu'on appelle en bibliophilie un mouton à cinq pattes. Donc j'ai des choses comme ça, et j'avais acquis ce manuscrit sur un coup de tête, et en fait, il m'a gêné. Il m'a gêné, je l'ai gardé quelques années, et je l'ai vendu à un libraire, un merveilleux libraire parisien. J'ai essayé de retrouver sa trace hier sur Internet. Il est soit actuellement à la bibliothèque de Rouen, soit aux États-Unis, au Texas, ou je ne sais pas où, enfin une bibliothèque. Enfin, je crois avoir retrouvé trace de ce manuscrit. Enfin, j'ai regardé les paginations et la description, il correspondrait à celui qui était donc ma propriété. Je l'ai vendu parce que il m'embrouillait, il m'obligeait à entrer dans un autre rapport à cet écrivain que j'adore. J'aime les livres, j'aime surtout les livres, et ce manuscrit était, c'est comme s'il y avait au fond trop de présence. J'aime les dédicaces un peu sur les livres, mais toutes ces pages, il y avait quelque chose qui, en plus j'avais envie d'un deuxième, quoi, et là je pouvais, évidemment après d'un troisième, donc je me suis dit, j'ai des enfants à élever, tout ça, peut-être je vais pas faire ça. Et donc j'ai cédé une fois à un libraire que ça intéressait, voilà. Donc en tout cas ça faisait beaucoup d'effet, puisque Marianne Alphand 15 ans après s'en souvient, et je dois dire que les yeux littéralement esbaudis de l'ami Jean Echenoz devant ce manuscrit sont gravés à jamais dans ma mémoire.
Ah oui, parce que c'est un Flaubertien, ouais, il était malade de jalousie. Mais, oui.
Il aurait pu me l'acheter, j'aurais pu faire un prix peut-être, je sais pas, il aurait pu quand me faire une offre quand il avait le Goncourt, oui. Enfin quand même.
Alors tout à l'heure, tu me disais que tu as des éditions originales de Flaubert, mais tu as aussi une relique.
Ah oui, j'ai. Oui.
Et que tu regrettais.
Tu m'obliges à dire des tas de choses inouïes là. j'ai un morceau du papier peint de la chambre de Flaubert. Oui. Mais ça, c'est un cadeau qu'on m'a fait. Donc ce qu'un libraire aussi également, un très grand libraire, alors que j'avais acheté un Flaubert, et il m'a dit, écoutez, il a senti que j'étais un cas, alors il m'a dit, je vais vous faire un cadeau un peu solennel, alors j'ai un petit morceau du papier peint avec encadré, enfin en tout cas sous un pli comme ça, avec une description qui maintenant date de probablement de la fin du 19e siècle, probablement à cette époque qu'on a refait la chambre de Flaubert. Alors, ce que j'aime beaucoup cet objet, parce que évidemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, je pense que c'est vrai, naturellement.
Il est de quelle couleur, ce papier?
C'est une espèce de rosace, un peu comme ça, avec des motifs. Mais vous savez, il est tout petit. Hein, j'aurais dû vous l'amener, d'ailleurs, je m'en veux, parce que je pense qu'on aurait... Là, on tenait quelque chose d'intéressant dans la soirée.
Alors... Bon, mais il faut quand même qu'on parle des raisons que tu as d'aimer Flaubert, qui ne sont pas purement... Enfin, si tu es devenu bibliophile ou bibliomane de Flaubert, c'est parce que tu le lisais et parce que il te parlait, il t'inspirait.
Oui, alors il a une importance fondamentale dans ma vie de musicien, à la vérité, tout simplement. Je l'ai abordé à l'école, au lycée, quoique c'était même pas un lycée, c'était une école secondaire active laïque, pour cas sociaux un peu, parce que j'étais un peu... c'était pas facile mon adolescence, et alors on m'avait mis dans une école comme ça, on s'occupait beaucoup de moi, et alors il y avait un très très bon professeur de français... qui a beaucoup compté pour moi, Madame Sarr. Et voilà, on attaque Madame Bovary. Alors, je lis Madame Bovary. Et en fait, il faut peut-être savoir que dans ces années d'adolescence, je tente l'idée d'imaginer pouvoir possible un jour que je pourrais peut-être espérer imaginer possible qu'il soit envisageable que je devienne musicien. Voilà. Donc, j'étudie l'orgue. Hein. Donc, j'ai beaucoup dans les églises pour un mécréant comme moi. Et quand j'aborde ce répertoire magique de l'orgue, en particulier Bach, évidemment, ces chers professeurs n'avaient de cesse de m'expliquer que, de toute manière, j'arriverais jamais à rien de comparable à ce qu'était l'inspiration divine qui traversait le... la tête du grand Jean-Sébastien, n'est-ce pas ? Et donc, enfin, tout ça pour dire quoi ? Qu'on vous fait comprendre que l'art n'est absolument pas à votre portée, qu'il faut être touché du doigt de Dieu, et que la musique, c'est une affaire sérieuse, que c'est pas mal si tu continues, mais en fait, en gros, t'as aucune chance, mon coco. Et là-dessus, Madame Bovary, je ne sais plus pour quelle raison, m'a amené vers la correspondance de Flaubert. Et ça, ça a été un moment pour moi qui a opéré, le mot est modéré même, ça m'a ravagé, quoi. Pourquoi ? Parce que j'ai compris par Flaubert, en particulier dans les lettres à Louis Collet, que l'art, c'était pas une histoire d'inspiration divine, c'était juste du boulot. Mais c'était pas ce qu'on m'avait dit. Mais que pour arriver à construire quelque chose, il fallait bosser, quoi. Et c'était pas du tout ce qu'on m'avait dit non plus. On m'avait dit l'art, c'est, je sais pas, surtout dans les années 70, où tout était un peu psychédélique, où les gens étaient toujours un peu avec les yeux révulsés, blancs, comme ça, planants. Et tout d'un coup, je découvre que pour faire de l'art, il faut travailler. Et je le dis très sérieusement parce que c'est quelque chose que je ne savais pas. Et j'ai dévoré ce qu'il était possible de trouver à l'époque dans la correspondance. Et puis comme j'étais un petit peu organisé quand même, je m'intéressais beaucoup aux biographies, évidemment. Je m'intéressais à savoir toujours comment les... que ce soit les musiciens ou les écrivains, c'était quand même un peu les deux choses qui m'intéressaient le plus. Je m'intéressais donc savoir comment les gens vivaient. Alors évidemment, Flaubert, tout seul, caché, l'ermite perdu avec sa maman à la campagne, faisant que travailler, refusant de voir... Je me souviens que c'était une chose qui me frappait beaucoup parce qu'il refusait, il décline en permanence les rendez-vous avec Louise Collet, qui était donc sa chérie de l'époque. Et moi, j'avais beaucoup de mal à voir la mienne, enfin, si tant est qu'elle avait envie déjà de me voir. Et je me disais, mais c'est fou quand même, en plus, il refuse de voir son amour, quoi. Enfin, c'était, alors que quand on est gamin et qu'on a une petite amie, hein, on est toujours en train de courir comme ça. Enfin, moi, c'était comme ça pour moi. Et ça, c'était fondateur aussi. Et il lui explique pourquoi il ne peut pas la voir, parce qu'il doit bosser, quoi. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Et tellement simple. Et ça ne m'a jamais quitté. Et j'ai toujours conseillé de... M'est arrivé quelquefois, moi je ne suis pas professeur, mais... quelquefois, de dire à certains jeunes compositeurs qui pensent que je sais quelque chose sur quoi que ce soit, je leur dis « Lisez la correspondance de Flaubert ». Alors, en général, ça ne marche pas du tout. Hein. Et, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a 3-4 volumes comme ça. Et alors, je dis « Tome 2, hein, je fais, etc. » Je dis « Je ne sais pas, j'essaye de... » Mais ça a marché une fois, quand même, avec quelqu'un. Voilà. Mais en général, ce n'est pas très compris. Je le regrette, d'ailleurs, parce que c'est un exercice de méditation sur l'art qui vaut pour à peu près, à mon sens, toutes les disciplines de l'art.
D'ailleurs, quand je voyais ton vieux volume de la Pléiade avec des tas de post-it, ouais. Comme s'il avait beaucoup, beaucoup servi.
Il a beaucoup servi, celui-là.
Il a beaucoup servi, oui.
Mais j'ai plein d'exemples, hein. Je peux même en lire tout à l'heure.
Oui,
Tu Mais veux... maintenant, oui, allez, j'y oui. vais. Je vous lis le premier. Oui, il écrit à Louis Scolaire. Donc Louis Scolaire, c'est
la muse.
C'est la muse, qui était une personnalité du reste très intéressante. Alors ça j'adore. Croisset, donc c'est là où il vivait, samedi minuit. 29 janvier 1853. Oui, chère muse, je devais t'écrire une longue lettre, mais j'étais si triste et embêté que je n'en ai pas eu le cœur. Est-ce l'air ambiant qui me pénètre ? Mais de plus en plus, je me sens funèbre. Mon sacré nom de Dieu de roman me donne des sueurs froides. En 5 mois, depuis la fin d'août, sais-tu combien j'en ai écrit ? 65 pages, dont 36 depuis Mantes. J'ai relu tout ça avant-hier, j'étais effrayé du peu que ça et du temps que ça m'a coûté. Je ne compte pas le mal. Chaque paragraphe est bon en soi, et il y a des pages, j'en suis sûr, parfaites, mais précisément à cause de cela, ça ne marche pas. C'est une série de paragraphes tournés, arrêtés, qui ne dévalent pas les uns sur les autres. Il va falloir les dévisser, lâcher les joints comme on fait au mât de navire quand on veut que les voiles prennent plus de vent. Je m'épuise à réaliser un idéal peut-être absurde en soi. Mon sujet peut-être ne comporte pas ce style. Ô heureux temps de Saint-Antoine, où êtes-vous ? J'écrivais là avec mon moi tout entier. C'est sans doute la faute de la place. Le fond était si ténu. Et puis le milieu des œuvres longues est toujours atroce. Mon bouquin aura environ 450 à 480 pages. J'en suis maintenant à la page 204. Quand je serai revenu de Paris, je m'en vais ne pas écrire pendant 15 jours et faire le plan de toute cette fin jusqu'à la baisade, qui sera le terme de la première partie de la deuxième. Alors je fais un insert. Flaubert parle souvent de la baisade. C'était les rendez-vous avec Louis Scolaire. C'est un genre, mais voilà. Je n'en suis pas encore au point où je croyais arriver pour l'époque de notre entrevue à Mantes. Vois quel amusement. Enfin, à la grâce de Dieu, dans 8 jours, nous serons ensemble. Cette idée me dilate la poitrine. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et cette lettre, j'aime beaucoup cette lettre parce que, outre effectivement qu'elle retrace ce que j'exprimais à propos du travail de façon très claire, il y a des lettres qui sont beaucoup plus circonstanciées encore, où il se plaint sur 10 pages qu'il a écrit 3 lignes depuis 1 mois et demi. Enfin, donc, on voit la puissance de feu de l'écrivain, puis en même temps la rétention qu'il opère sur son propre travail, qui est en soi, à mon sens, déjà un modèle de penser sur le travail, et encore une fois, n'importe quel travail conviendrait. Et ce que j'aime là aussi, parce que c'est des choses qu'on peut aborder là maintenant, c'est il fait une chose sur l'architecture. Il dit, il va falloir les dévisser, lâcher les joints, comme on fait au mât des navires. Donc là, il est dans les navires, mais j'aime beaucoup cette idée de lâcher, de dilater et de contraction, qui, outre la métaphore, on va dire, sensuelle qu'elle suppose, est aussi un terme qui... des termes qui sont corollaires à ceux de la construction. Et ça, c'est une chose qui est très importante pour moi. Alors, je suis très bavard, moi. Fais attention si tu veux m'arrêter.
Tu es là pour ça.
Alors, ce qui est intéressant avec Flaubert, c'est que je vais peut-être perturber quelques avis là-dessus, mais je pense que Flaubert n'est pas du tout un écrivain musical, par exemple. Je reviens en même temps un petit peu en arrière. Je m'amuse quelquefois, comme amateur de littérature, de cette métaphore qu'on opère très souvent sur les livres. C'est extraordinaire, les critiques ou les écrivains eux-mêmes, du reste, voir les éditeurs sur les quatrièmes de couverture. Le nombre de fois on dit harmonie, écriture lyrique, symphonique, la musicalité de la phrase, la mélodie des mots, etc. Ça, c'est quelque chose qui traverse toutes les époques, tous les pays. Et c'est comme une espèce de désir, de mémoire perdue de la littérature sur la musique. Et c'est très étrange en France, en plus, où on sait que la France n'est pas nécessairement un pays... évidemment musical, mais pas, c'est, la musique n'est pas, fait pas partie du souterrain intellectuel de notre pays, comme elle l'est par exemple en Allemagne ou même en Angleterre. Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des bons musiciens et qu'on n'a pas de bonnes institutions musicales, naturellement. Mais bon, tout ça pour dire que chez Flaubert, il n'y a rien de tout ça, à mon sens. C'est-à-dire que, effectivement, il y a une phrase d'une concision extrême, il y a une science des rapports des sons dans la phrase qui est extraordinaire, mais il n'y a pas ce que j'appellerais une musicalité de la langue. Si Flaubert a été pour moi important au-delà de la correspondance par la suite, c'est plutôt dans les vitesses que ça m'a beaucoup intéressé. Il n'est pas le seul, naturellement, mais il y a chez Flaubert des systèmes de dilatation et de contraction du temps qui sont absolument remarquables. J'en veux pour preuve la fin de Madame Bovary, que je vois ici et que je saisis à l'instant, qui est pour moi un exemple qui est très connu, certes, mais qui est une chose qui m'avait énormément frappé. Bon, pour ceux qui ont lu Madame Bovary, vous avez quelquefois des pages entières consacrées à l'art d'éplucher les oranges. Enfin, il y a tout un passage quand Charles Bovary pèle les oranges. Ça dure très longtemps et on sent toute l'exaspération d'Emma Bovary sur ce fichu mari qui pèle avec tellement d'attention et ses oranges. Et ça dure comme ça. Et il y a d'autres mouvements, enfin, il y en a des centaines et des centaines. Hein. Mais la fin est absolument incroyable, parce que c'est une accélération temporelle unique. Quoi. Lorsque tout fut fini, tout est fini à la fin de Madame Bovary, il y a cette phrase, donc je renvoie à ceux qui connaissent bien l'histoire. « Quand tout fut vendu, il resta 12 francs 60 et 15 centimes qui servirent à payer le voyage de Mademoiselle Bovary chez sa grand-mère. » La bonne femme mourut dans l'année même. Le père Rouault étant paralysé, ce fut une tante qui s'en chargea. Elle est pauvre et l'envoie pour gagner sa vie dans une filature de coton. Depuis la mort de Bovary, trois médecins sont succédés à Yonville sans pouvoir y réussir, tant M. Homais les a tout de suite battus en brèche. Il fait une clientèle d'offert. L'autorité le ménage, l'opinion publique le protège. Il vient de recevoir la croix d'honneur. Alors là, il y a une espèce d'accélération littéralement subsonique, là, parce que, si on peut dire... Parce qu'il reprend tous les thèmes autour desquels le roman a été organisé. Le pharmacien Homais, évidemment Charles Bovary, la petite fille Berthe, etc. Et il vient de recevoir la croix d'honneur, le pharmacien va recevoir la croix d'honneur, c'est ce sale type qu'est le pharmacien. Quoique dans Madame Bovary, il n'y a que des gens pas bien, je trouve. Enfin, C'est quelque chose qui innerve au fond la grande seconde partie du roman, et comme ça tout est accéléré, tout est contracté, les informaticiens disent, j'aime beaucoup ce terme, concaténé, quoi. Et ça, c'est un procédé dramaturgique que Flaubert n'a pas inventé naturellement, mais qui était pour moi une source d'observation, quoi. J'ai compris ça très jeune. Ça m'a surpris très très jeune, ces ralentissements et ces contractions. En plus, il y a aussi autre chose. Encore une fois, il est pas non plus l'inventeur de ça, mais je pense quelque part, enfin, que je ne suis pas non plus un critique littéraire, et encore moins un universitaire ou un professeur, naturellement, de littérature, mais je pense que c'est Proust qui a été après très très loin là-dedans. Mais il fait des descriptions, Flaubert, qui sont totalement irréalistes, quoi. Enfin, la première, c'est le chapeau de Charles Bovary. La fameuse casquette. Où si vous tentez de dessiner ce qu'il vous... Vous explique, enfin, ce qu'il vous décrit. D'ailleurs, si j'étais rapide et organisé, je l'aurais déjà trouvé, parce que ça vaut la peine. C'est impossible de... On ne peut pas se représenter ce chapeau. C'est-à-dire qu'il est, il est tellement invraisemblable qu'au fond, il acquiert une dimension abstraite. Alors, ce sont des petits détails, ce ne sont pas des inventions nécessairement de Flaubert, mais puisque je suis là pour parler de ce que tu m'as convié à une crise d'égocentrisme total, allons-y. C'est des choses comme ça que je remarquais quand j'étais, très jeune. Et ce sont des choses, au fond, qui sont pour le coup assez proches de la pensée musicale dans son système de représentation. Quand on entend une musique intérieurement, quand on envisage un temps musical, une séquence musicale, au fond, on est dans ce type de rapport avec l'objet. C'est-à-dire qu'on le décrit, mais on ne le représente pas, puisqu'il est pur éther, il n'est qu'une simple vibration de l'air. Et c'est quelque chose, des choses comme ça, que j'ai mis, moi, très longtemps à comprendre. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses, enfin, dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par trois boudins circulaires, puis alternée, séparée par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée et d'où pendait au bout d'un long cordon, trop mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait. Ça, c'est merveilleux, parce que je vous... C'est page 2, en gros, de Madame Bovary. Et essayez de dessiner ça... C'est un appel à l'imagination immédiatement. En revanche, elle était neuve. La visière brillait. Ça, c'est de la dramaturgie, ça. Ça, c'est du théâtre. Et parce que ça, immédiatement, vous savez où vous êtes. Et ça clôt, ça ponctue. C'est en même temps, oui, un point de ponctuation et un commentaire, une apostille, si on peut dire. Et ce sont des choses... je pense à des choses comme ça quand j'écris de la musique. Quelquefois, vous faites des choses comme ça. Comme et puis tout d'un coup, vous faites clac, clac, clac. Voilà. Et c'est fini. Et quelque chose d'autre peut commencer après, continuer. Mais il y a des façons de pirouetter et de finir et de faire des micro-saltos avant-arrière comme ça pour terminer une phrase... Et ça, ce sont des choses comme ça. Moi, maintenant, je peux lire Madame Bovary à l'envers. Je sais pas, j'ai lu peut-être 20 fois Madame Bovary en entier, quoi. Et je ne le lis pas, de façon même sociologique. Ça m'intéresse pas du tout. Je pense même que c'est au fond une histoire pour nous qui c'est pas très intéressant d'ailleurs, quoi. Enfin, c'est en gros l'histoire, vous la connaissez, c'est, évidemment. C'est une femme qui est mariée à un homme, et puis ça va pas, quoi. Voilà, s'ennuie, pour pas dire plus. Et puis tout d'un coup, il y a un type qui passe, qui vaut pas mieux que ces deux-là, de toute manière. Puis voilà, tout d'un coup, il va se passer quelque chose, quoi, qui lui donne l'idée du sentiment que quelque chose va pouvoir être possible. Et puis, évidemment, rien n'est possible et ça se termine très mal. Mais ce qui est beau, c'est la structure de la forme, c'est l'enchaînement, c'est le dispositif. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé ça.
Tu disais tout à l'heure que la langue, la phrase n'était pas musicale. Je lisais dans ce livre très, très remarquable de Pierre-Marc de Biasi qui vient de paraître, hein, Gustave Flaubert, Une manière spéciale de vivre. Il y a deux choses justement qui, s'opposeraient à ce que tu viens de dire, ou alors il faut le prendre autrement. Bon, la première chose, il parle d'une sorte de bande-son dans Madame Bovary.
Ah oui, hein, c'est très différent. Ça,
c'est ouais. Très différent, ouais. Voilà. Et en feuilletant comme ça Madame Bovary, je retombais sur, sur une chose très, très étonnante qui fait partie de la, des premiers moments entre le début de la relation entre Charles Bovary et Emma. Il est amoureux d'elle, il va la voir dans la ferme de son père, etc. Et donc un jour, elle le raccompagne à la porte. Elle était sur le seuil, elle alla chercher son ombrelle, elle l'ouvrit. L'ombrelle de soie gorge de pigeons que traversait le soleil éclairait de reflets mobiles la peau blanche de sa figure. Elle souriait là-dessous à la chaleur tiède et on entendait les gouttes d'eau, une à une, tomber sur la moire tendue. Ça, c'est bon. Alors, il y en a... voilà, et notamment la scène...
Du corset.
Oui, et puis la scène amoureuse avec Rodolphe, on entend le bruit des chevaux, le bruit des feuilles, etc. Donc la bande-son, donc bien sûr, la phrase n'est peut-être pas, n'a peut-être pas la musicalité de, je ne sais pas, de la poésie, par exemple, mais il y a une bande-son. Et deuxième chose que dit Pierre-Marc de Biasi, c'est qu'il y a dans la phrase de Flaubert, justement parce qu'il la travaillait et qu'il la travaillait à la voix, à la gorge, il y a la présence d'un corps et d'une sonorité très particulière et que le texte, d'une certaine façon, est comme une partition qui a été écrite par Flaubert ou qui a été gueulée. Et que le lecteur se trouve à avoir en main pour peut-être arriver à la déchiffrer ou à retrouver le corps de Flaubert.
Oui, alors je m'attendais à ça un peu, et je suis sûr que dans la salle il y en a quelques-uns là, qui pensaient ça aussi. Mais parce que évidemment, la question de la musicalité n'entendait pas chez moi. Enfin, je voulais pas dire il n'y a pas de musique chez Flaubert. Mmh. Évidemment, dans Madame Bovary, il y en a beaucoup. D'abord, il y a la scène du bal qui est.
Il y a l'opéra.
Oui, la séance à l'opéra. Il y a des chants populaires. Il y a plein de choses qui passent. Et puis des phrases comme celle que tu viens de citer. Puis aussi, pour moi, la scène du corset où on entend les serpents, quoi, comme ça, qui est d'un érotistoride. On n'a pas vu ça avant Buñuel, quand même, avec Carole Bouquet en 1977, hein, quand même. Hein. Pour ceux qui l'auraient vu, ce film incroyable où elle arrive pas à enlever son corset. Enfin bon. Mais qui s'appelle, je ne sais plus quoi, voilà. Cet obscur objet du désir. Voilà. Mais évidemment qu'il y a tout cela. Mais c'est une autre chose. Hein. C'est simplement la façon qu'a de rendre compte un écrivain de la musique. Comment on fait pour rendre compte de la musique, ou comment on fait entendre le monde des sons par la littérature. Et quand je dis les sons, ça ne veut pas dire uniquement la musique, naturellement. Si tant est que la musique n'est pas seulement du son, enfin, je veux dire, ou le contraire. Enfin, il n'y a pas de hiatus entre les deux, bien sûr. Le fameux gueuloir de Flaubert, puisque c'est comme ça qu'il appelait la pièce où il hurlait ses textes, ne procède pas, à mon sens, enfin, peut-être je fais une erreur, quoique ce ne serait pas si grave, mais ne procède pas, à mon sens, d'un désir de musicalité, mais d'un désir d'intonation. C'est-à-dire que la différence serait qu'il cherche quelque chose qui est dans l'espace de sens. Et dans l'espace de. Enfin, il cherche à ce que le sens soit dans le son. Et ça, c'est l'histoire de la voix, c'est pas l'histoire de la musique exclusivement. C'est-à-dire qu'il cherche à placer une rythmique, probablement. Mais je pense qu'il s'intéresse plus aux accents. Enfin, moi, je dirais en musique, il s'intéresse plutôt aux accents, quoi, et aux signes de la ponctuation musicale. Enfin, moi, c'est plutôt comme ça que je le verrais. Bon, après, pour tordre le cou à la musicalité chez Flaubert, il suffirait de tordre le cou à la musicalité dans la littérature de façon générale. Que ça reste une métaphore, que ça reste un moyen de rendre compte d'une chose, certes, que ça reste aussi une tentation de l'écrivain, par amour de la musique, d'arriver à quelque chose qui ressemblerait à cette élocution. Tout ça, c'est possible et c'est légitime, mais je ne vois pas en quoi... la littérature gagnerait à être musicale. Enfin, je veux dire, Enfin, ou alors elle l'est déjà de fait. Enfin, je sais pas. Peut-être je suis confus là, mais moi personnellement, je m'en fiche que la littérature soit musicale. Quoi. C'est pas ça que je vais chercher. Même s'il m'arrive quelquefois de me dire puisque j'ai quand même fait un certain nombre d'opéras et de musique vocale, même si j'arrive à dire ce texte-là se prête plus volontiers à tel type de registre et de système intonationniste d'ailleurs que tel autre. Bien sûr, mais c'est pas pour ça que je dirais que ce texte, par exemple en ce moment je fais un projet avec des textes de Nietzsche en allemand, je me dis jamais tiens ce texte est musical là. Tiens, je vais me faire une petite musique là, là-dessus, vous voyez, je me dis bon, je pense jamais à ça quoi. Ce qui m'intéresse c'est le sens, après je prends le son de ces sens et de ce sens là et je le fais entrer dans ma musique, et évidemment que ma musique, elle est déformée par cet ensemble de sons et de sens, mais on pourrait mettre en musique le bottin, quoi, vous voyez, non, mais c'est vrai, et on pourrait mettre en musique le code civil, quoi, enfin, beaucoup de courage, mais même le code de la route, quoi, enfin, je veux dire, il n'y a pas de... C'est d'ailleurs un des privilèges de la musique extraordinaire, parce que vous pouvez même induire un sentiment avec la musique totalement contraire à celui qui est exprimé dans la littérature. Prenez par exemple un duo d'amour à l'opéra, vous voyez le genre, je t'aime, tout ça, tout va bien, bon, mais vous pourriez très bien dire vous pourriez très bien faire chanter sur le même air des gens qui se disent des choses horribles. Je te déteste, c'est qu'un con, tout ça, tu sens mauvais, tout ça. Et puis avec, vous voyez, une musique Mozart, quoi. Enfin, on pourrait même... vous auriez un système très intéressant, d'ailleurs. D'ailleurs, du reste, ça a été fait, hein. Enfin, surtout, mais vous auriez une espèce de choc, au fond, comme ça, sémantique, hein, sur deux systèmes de sens, quoi. Donc, la musicalité là-dedans, oui.
Ce qui est intéressant, enfin, quand on parle toujours du gueuloir, donc on l'imagine en train de brailler, de crier, enfin, ça passe par la gorge, hein, bon, voilà. Mais ce qu'on ne sait pas, alors que pourtant c'est extrêmement important dans la lecture, c'est le tempo, c'est la vitesse. Or, justement, c'est ça que tu relèves chez Flaubert, et notamment dans la fin de Flaubert, dans la fin de Madame Bovary, ces systèmes d'accélération. Là, on est dans des questions de tempo, de rythme. Et de ça, on ignore tout. On ne sait pas si Flaubert lisait à toute vitesse, s'il y avait des ralentis, on ne sait pas. On sait qu'il criait, qu'il braillait. Alors, je voudrais que tu parles de façon à la fois particulière quant à Flaubert et de façon plus générale quant à la littérature ou à d'autres auteurs comme Beckett, que tu nous parles un peu du rôle de la, disons, des écrivains dans ton travail, hein, puisque tu as un certain nombre de tes pièces ont emprunté des titres, hein, à Beckett. Et il y a des citations de Flaubert dans certaines de tes pièces. Et puis il y a cette œuvre de 1985 qui s'appelle « 13 pièces pour Flaubert ». Flaubert, Beckett, etc. Quel est le rôle de certains écrivains dans ton travail ?
Alors, moi j'aime beaucoup lire. C'est ce que je préfère faire. J'aime bien lire, moi. Je lis plus que j'écoute de la musique. Mais la question débile, parce que c'est vraiment débile, quoi. Hein, c'est de la souvenir le désert, tout ça. Et bon. Ben, je crois qu'entre un disque et un livre, je prendrais le livre. Bon, c'est idiot, personne ne m'a demandé d'aller sur une île déserte. Quoi que remarquez, ça pourrait se faire un jour aussi. Mais c'est vrai que la musique, pour moi, est tellement naturelle. Enfin, j'ai un amour tellement profond de la musique. Enfin, c'est tellement... Je sais pas ce que c'est la vie sans musique. J'ai aucune idée de comment on peut vivre sans, d'ailleurs. Je trouve d'ailleurs assez incroyable qu'on puisse vivre sans. Mais c'est normal. Je fais ça depuis tellement longtemps. Je sais pas comment c'est la vie autrement, hein. Si j'étais photographe, peut-être que je me poserais la même question. Ou cinéaste. Ou écrivain. Alors, moi, je suis... compositeur de musique, et puis je vais toujours regarder là où ça pense ailleurs, quoi, et comment ça pense. Ça fait que je m'intéresse beaucoup à la littérature, parce que littérature aussi, c'est facile. Il y a un côté portable, quoi, qui convient très bien. C'est facile d'avoir un livre dans la poche, d'être dans le train, dans le métro. C'est beaucoup plus facile qu'écouter la musique, même avec un iPod, tout ça. Et je trouve, quoi, il n'y a pas de problème de pile. Enfin, vous voyez. Non, mais c'est idiot, mais c'est vrai. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne lisent pas plus, d'ailleurs. Mais bon. Donc, je vais voir comment ça pense ailleurs, et je vais voir comment ça dépense aussi. Hein, parce que ça dépense aussi, quelquefois. C'est-à-dire, ça vous permet de vous laver au fond de la forme de pensée qui est la vôtre. Enfin, là, c'est comme ça que je vois les choses. C'est pour ça, moi, je vais toujours regarder l'architecture, la peinture, le cinéma, enfin n'importe quoi, à vrai dire, même les choses de très mauvaise qualité, j'aime bien regarder quelquefois. Par exemple, je m'intéresse beaucoup aux mauvaises musiques quelquefois. J'aime bien les photos aussi, j'aime bien toutes les photos, mais n'importe quelle photo m'intéresse, quoi. Je préfère les bien, les belles, mais je veux dire, même une mauvaise photo, ça m'attire toujours comme ça. Mais la littérature chez moi, au fond, c'est infusé dans la musique, parce que c'est la voix. Ça a été la voie et la tracée pour moi pour aller à la musique. C'est grâce à la littérature et à mon amour de la littérature que j'ai pu comprendre comment il était possible d'architecturer, de composer. Et c'est pour ça, dans des moments très lyriques, un peu tardifs comme ça, quelquefois, je dis, au fond, mon ambition musicale était littéraire. C'est-à-dire que, pas de faire de la littérature, mais qu'au fond, ma musique relève d'une ambition littéraire parce qu'elle traverse l'ensemble des données de ma conscience. C'est pour ça que pour les musiciens, par exemple dans la musique dite contemporaine, enfin, parce que c'est un terme complètement con, je trouve, musique contemporaine de quoi, enfin, moi j'adore insulter ce terme, non pas les compositeurs qui vont avec, naturellement, parce que j'en suis, mais. Et j'ai un très grand respect de l'histoire de la musique du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, mais cette musique contemporaine qui est contemporaine depuis 1940, je commence à trouver ça, mais lourd, quoi. Enfin, contemporain de quoi. Enfin bon, disons musique. Mais dans la musique, je ne suis pas toujours perçu, pour certains, comme un compositeur très pur. Hein. Ce n'est pas nécessairement une critique mauvaise qu'on fait à mon égard, on en fait naturellement et heureusement, mais je veux dire, ça ne me déplaît pas, ça. Moi, j'aime bien cette impureté-là que me permet la littérature, parce que c'est la littérature qui me permet ça. Alors, évidemment, tout ça, ça rentre dans le travail, et ça s'inscrit en marge de la partition. C'est vrai que mes partitions sont alors maintenant, je fais un petit peu attention, parce qu'on me pose tellement de questions là-dessus, puis les étudiants, maintenant, ça rentre dans le circuit universitaire. Alors, il y a des gens, ils font des thèses, des machins, ils font des trucs compliqués là-dessus, et ils me posent des tas de questions. Je dis, non, mais moi, c'est très simple. Moi, par exemple, je termine une pièce, et puis je vois cette citation dans Flaubert, « La bêtise consiste à vouloir conclure. » Formidable. Vous mettez ça à la fin de la dernière mesure, hop, c'est bon. Vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez déjà dit que la bêtise consistait à vouloir conclure, mais vous avez surtout dit que vous n'avez pas fini. Et ça, c'est bon pour un chef d'orchestre de voir ça. C'est vrai, même pour un musicien. Ou alors, comme je fais des citations de Beckett, énormément, d'ailleurs Beckett est probablement l'auteur que j'ai le plus cité, à chaque fois je demande l'autorisation à Irène Lindon. Et j'adore une que j'ai citée énormément, et qui dit, c'est dans Mercier et Camier, il dit, ça devrait changer, dit Camier. Ça ne changera pas, dit Mercier. Alors, tout devra changer, dit Camier. Ça ne changera rien. Et alors là, je l'improvise un peu, la situation, parce qu'elle existe sous différentes formes. Mais c'est l'esprit. C'est-à-dire que Camier et Mercier se demandent si ça va changer. Alors, il y en a un qui dit « ça va changer », et l'autre qui dit « ben non, ça ne changera rien ». Et au fond, quand je mets ça dans mes partitions, c'est ce que je vis, moi. Alors, je m'identifie, voilà, bah, je continue, voilà. Et je trouve toujours quelque chose qui va avec, quoi, qui fait que ça fonctionne. Et je le mets parce que c'est mon écriture aussi. Et j'ai même une pièce comme ça où, dans les parties des musiciens, il y a des citations de Beckett tout le temps. C'est-à-dire, c'est dans leur musique. C'est pas ils jouent du violon, hein, mais
ça n'est pas dit.
Non,
ça n'apparaît
ce
pas.
N'est pas
c'est
dit.
Dans la partition.
C'est juste, par exemple, dans une partie, il y a un très difficile de violoncelle, et c'est vraiment très difficile à jouer. Et à la fin, juste, il y a marqué quel salaud, dit Camier. Et Samuel Beckett, page 32, enfin, c'est une citation. Mais c'est une vraie citation de Beckett. Quel salaud, dit Camier. Et alors, je peux vous assurer que quand le musicien voit ça, en plus, je l'ai fait traduire en anglais, tout ça, en allemand, donc à chaque fois, il y a. Et le musicien voit ça, au fond, il comprend quelque chose de vraiment humain, quoi. C'est-à-dire, il est. D'abord, ça l'amuse, et puis. Et puis, il entend quelque chose que je suis en train de lui dire. Je suis en train de lui dire, oui, je sais bien que c'est dur, quoi, que tu te fais, hein. Je sais bien que t'en chies, là, quoi. Enfin, c'est ça que je dis, quoi. N'ayons pas peur de ces mots-là. Mais je te comprends, quoi. Oui, je sais, t'as le droit de dire que je suis un salaud, là. Eh bien, ça le fait sourire et ça fait toujours passer quelque chose. Donc, je te donne ce petit exemple qui est clair, quoi. Mais il y en a d'autres.
Et tu mets du... Ça t'est arrivé de mettre du Flaubert ?
Oui, alors Flaubert, j'en ai mis pas mal. Mais je fais moins maintenant. Alors là, je pourrais... Je ne sais pas si on a le temps, mais parce que... En même temps, Flaubert, je le fais moins parce que Flaubert... Aujourd'hui, je vais aller fort là, mais quelque part ça m'intéresse moins. Flaubert m'intéresse moins parce que je me dis quelquefois que c'est pas que non, c'est pas que ça m'intéresse moins, c'est pas vrai, non. Je me dis qu'il quelquefois qu'il aurait peut-être pu aller encore ailleurs et que il a maintenant... D'abord, je suis un petit peu gêné par certains aspects de la vie de Flaubert. Je pense que c'était quand même un bourgeois un peu réac, quoi. Enfin, je veux dire, son attitude sous la Commune n'était quand même pas top, quoi. Des moyens, quand même. Son rapport aux femmes, tout ça. Enfin, il y a quand même des problèmes, quoi, je trouve. Hein. On peut quand même le juger. Je veux dire, en tout cas, avoir un avis rétrospectif sur lui. Mais il y a un peu aujourd'hui, je trouve, c'est devenu aussi un peu un écrivain pour professeur de littérature, quoi. Il est bien. Et puis, je pense que quelquefois aussi, il oblitère un peu d'autres choses. Par exemple, imaginez quand même qu'il est quasi contemporain, à 20 ans près, de L'autre à Amont, de Mallarmé. Des impressionnistes. Il se passe quand même d'autres choses dans l'histoire de l'art à ce moment-là qui est complètement dingue, quand même. Hein. Et je trouve quelquefois un peu. Un peu. Voilà, je m'interroge, quoi. Un petit peu bizarre qu'au fond, ce soit toujours une espèce de figure énorme, comme ça, qui. Et ce matin, je parlais avec un ami que j'adore, Pierre Encrevé, qui est le sémiologue que l'on connaît, mais aussi qui a fait le catalogue de l'émission
de Soulages,
le catalogue raisonné, et qui me racontait qu'il connaissait bien Claude Simon, qui n'aimait pas du tout Flaubert. Et alors, ça m'a beaucoup étonné. Je lui dis, quoi, Claude Simon n'aimait pas Flaubert? Ça, alors. À vrai dire, j'adore Claude Simon, mais je suis pas du tout un spécialiste de Claude Simon. Mais je pensais l'idée qui était courante. Mais moi, je reste un amateur, hein, que le nouveau roman après la guerre avait été complètement traversé, parce qu'on le sait surtout par Michel Butor, traversé par Gustave Flaubert, que son côté un petit peu clinique comme ça avait au fond incliné une certaine catégorie d'écrivains après la guerre, hein, dans la description. Ça, non, lui, il aimait pas ça du tout. Et alors après, savoir si Claude Roman, tout d'abord, qu'est-ce que c'était le nouveau roman, enfin tout ça, c'est des un, voilà, ça n'existait pas d'ailleurs, le nouveau roman, je crois, mais tout ça, c'est des questions. Et alors, il m'a dit que Claude Simon adorait les esquisses, et ça, je trouve ça génial. Les esquisses des carnets de, enfin les carnets de Flaubert, qui étaient à son avis le vrai œuvre de Flaubert. Alors c'est pour ça que j'en ai ramené, qui était la façon dont travaillait Flaubert, puisqu'avant d'entamer, et ça a été très important aussi pour moi dans les descriptions des événements qu'il allait entre guillemets extendre, développer. Il avait une façon de noter les choses qui, pour Claude Simon, étaient le vrai œuvre. Enfin, alors évidemment, tout ça est un peu outrancier et tout, ça m'a donné envie. Alors, il y a un site, enfin, pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a un site absolument invraisemblable sur Madame Bovary. Vous avez tout, le manuscrit, les notes, les critiques qui ont été faites à l'époque. Enfin, je sais pas, il y a des gens invraisemblables qui travaillent là-dessus. Enfin, il y a tout, quoi. Tout ce que vous avez rêvé, vous l'avez. Alors moi, je l'ai trouvé tout de suite. Madame Bovary. Charles Bovary, officier de santé, 33 ans, quand commence le livre, veuf déjà d'une femme plus vieille que lui, épousée par spéculation, plutôt par bêtise, et dont il a été dupe. Vagabondage dans les champs, époque où l'on brasse. Son enfance en la campagne jusqu'à 15 ans, 3 ou 4 ans, au collège, puis carabin. À grand-peine, misère sotte et dont il n'a pas conscience, esprit doux, sensible, droit, juste, obtus, sans imagination, une ou deux grisettes lui font connaître l'amour. Ambitieuse et tripotière, le père, Yvonne, ivrogne, et reçu, sa mère avec lui, puis sa première femme, Madame Bovary, signe Maria, Marianne ou Marietta, on verra, fille d'un cultivateur aisé, élevée au couvent à Rouen. Souvenir de ses rêves quand elle repasse devant le nobles amis, toilette piano, couvent, au spectacle au phare Saint-Romain, quand son père, bon gars, piété du pays de Caux, y vient. Père du noyé, dénoyé. Aime d'abord son mari qui est un assez beau garçon, bien fait, belâtre, mais sans grand emportement. Ses sens ne sont pas encore nés. Peu à peu, elle apporte dans la maison plus de luxe que le revenu n'en comporte. Alors, je m'amuse à lire ça, mais c'est extraordinaire, non? C'est-à-dire, si vous connaissez le début de Madame Bovary, ben c'est Madame Bovary, c'est le début de Madame Bovary. Et là, je théâtralise un peu, en quelque sorte, mais quelque part, on peut aujourd'hui avoir une espèce de regard et une écoute, pour le coup, là, on pourrait dire qu'il s'agit de musique, quasiment rétrospective, évidemment avantage que nous donne l'histoire, parce qu'il s'est passé un certain nombre d'années, à peu près un siècle et demi, d'ailleurs plus même, qui nous permet de lire ces notes comme du vrai texte, quoi. Mais sans aller jusqu'à aujourd'hui, ou au texte de mon grand ami Olivier Cadio, hein, auquel on pense tout de suite, oui. Au fond. Oui. Il y a qu'à penser à Mallarmé. Évidemment dans un tout autre type d'expression littéraire, hein, mais ce qui relève de du séquençage, je dirais, des termes, on n'est pas très loin du hasard de Mallarmé ou même. Alors après, évidemment, c'est une pensée fragmentaire, dit Guitour, la folie d'Elbénon, ou bien le tombeau d'Anatole, qui reste pour moi un texte absolument, à mon sens, le plus grand texte de Mallarmé. Enfin, le plus grand, c'est soit un avis personnel, mais enfin, moi, je suis très, très ému par ce texte, qui est un pur système de déchirure interne, quoi.
Et de notes.
Alors, ça pose le problème dans... Là, pour revenir sur Flaubert, au fond, qu'est-ce qu'on aime dans l'art, quoi? Est-ce qu'on aime les œuvres? Alors, nous, c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir sur Flaubert, parce que toujours, et ça n'enlève pas son immensité. Est-ce que on nous apprend à aimer des monuments parfaits? Parce que ce qu'il y a chez Flaubert, c'est ça qui est emmerdant, au fond, quoi. C'est parfait, quoi. C'est toujours parfait. Hein, c'est parfait, quoi. Et quand ça l'est pas à la fin, parce qu'il a pas fini, ben c'est quand même parfait. C'est Bouvard et Pécuchet, c'est peut-être même encore mieux que tout le reste. Et on nous étudie, lapsus c'est joli, oui, on nous forme là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on nous apprend à aimer ces œuvres colossales et parfaites. Dans la musique, on a Ravel, nous, comme ça. Voyez. On nous dit, Ravel, mais c'est parfait. J'adore Ravel. Mais c'est juste parfait. Il a fait très peu, c'est parfait. Quoi. Voyez. Et puis, nous, on est là devant les compositeurs, on est juste des moins que rien et on n'est pas parfait. Quoi. Mais au fond, ce qui est derrière, c'est pas ça. Ce qui est derrière, c'est qu'est-ce qui ouvre. Et si vous prenez en musique Stravinsky, que je rapprocherais par exemple de Flaubert, là, alors que ça peut surprendre, mais Stravinsky, c'est pareil, c'est un art sans graisse. Il n'y a pas de graisse chez Stravinsky. C'est sec, ça sent l'os. D'ailleurs, il le disait lui-même. C'est un art... enfin, merveilleux, enfin, opulent, si l'on veut, mais sec. Hein. Le sac du printemps, bah, c'est Salambo, quoi. Hein. Mais il y a aussi, chez Stravinsky, vers la fin, une espèce de rigueur ascétique. Il est arrivé à l'expression, il y a trois notes qui se baladent sur la portée. C'est d'ailleurs, malheureusement, une période toujours très peu connue de Stravinsky, qui est extraordinaire. Mais il y a de l'autre côté, il y a Varèse. Edgar Varèse, bah Varèse, c'est pas parfait. C'est sanglant, c'est lacunaire, c'est ouvert, c'est béant, ça saigne de partout, c'est ça coince, quoi. C'est pas parfait, mais c'est tellement génial et ça vous ouvre tellement. Ça vous donne une telle ouverture. Alors, je renvoie aux amateurs de Varèse, mais je veux dire, en tout cas, c'est ce que je pense. Et aujourd'hui, c'est des questions comme ça que je regarde chez Flaubert. Donc j'ai tendance quelquefois à très légèrement dévisser le mythe sur lequel je me suis moi-même constitué. Mais c'est par plaisir. Hein.
Bon, ben je crois que on va maintenant regarder le film. Merci à Pascal du Sapin. Et donc nous voyons maintenant lire, écrire Flaubert de Pierre Dumayet, réalisé par Robert Bobert.